Évangile selon Luc, dans le chapitre 10, versets 17 à 20. Le titre de la réflexion de ce matin est le suivant, le vrai sujet de notre joie. Il est écrit, les 70 revinrent avec joie et dirent, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Amen. Jésus a envoyé les 12 et ensuite il envoie 70 de ses disciples, eh bien, apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et ces hommes reviennent un petit peu comme des gosses, du moins je l'imagine ainsi. Ils ont vécu des choses extraordinaires, ils ont vu des guérisons dans le nom de Jésus, ils ont vu eh bien, des hommes et des femmes être délivrés dans le nom de Jésus, ils ont vécu des choses glorieuses dans le nom de Jésus. Et ils reviennent un petit peu tout fous en disant « mais c'est extraordinaire, nous avons autorité même sur les démons !» Et c'est vrai, ils ont raison de se réjouir. Et Jésus lui-même est dans la joie. Puisqu'il dit que, eh bien, il voyait Satan tomber du ciel, et si Jésus était dans la joie, ce n'était pas simplement, eh bien, pour être dans la joie, mais c'était parce que l'œuvre qui s'accomplissait était les prémices de ce qui allait être fait, eh bien, de manière définitive à la croix. Jésus était dans la joie, non pas parce qu'il y avait quelque chose de spectaculaire qui se passait, mais parce que c'était les prémices de l'œuvre permanente qu'il allait accomplir sur le bois de la croix. Et quelque part, je pense que ça encourageait la nature humaine de Jésus de voir eh bien, que des hommes ont son nom, vivaient les prémices de ce que l'Église vivrait plus tard et de ce que l'œuvre de la croix serait plus tard. Jésus va recentrer leur joie. Ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il ne tape jamais avec un bâton, mais c'est qu'il recentre toujours avec douceur. Lorsque les fils de Zébédée lui demanderont, ou plutôt la mère des fils de Zébédée lui demanderont, hey, est-ce que mes fils peuvent être assis l'un à ta droite et l'un à ta gauche? Qu'est-ce que dira Jésus? Il ne leur dira pas, qu'est-ce que vous avez comme orgueil? Mais il leur dira, ok, vous voulez être les plus grands dans le royaume des cieux? Alors soyez serviteurs, parce que tel est le cas. Et ici, en l'occurrence, Jésus va faire un petit peu la même chose. Il va leur dire, vous avez raison d'être joyeux, vous avez raison d'être heureux. Mais ce qui doit être l'objet principal de votre joie, c'est que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ce qui doit faire l'objet essentiel de votre joie, c'est que eh bien, vous êtes connu dans les lieux célestes. C'est que vos noms sont inscrits dans le cœur du Père. Et je me dis que là, il y a un enseignement de choix pour nos vies. Bien sûr que nous avons raison de nous réjouir lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, que nous avons raison de nous réjouir lorsque des prières sont exaucées, que nous avons raison de nous réjouir lorsque des dons spirituels sont exercés. Bien sûr. Mais ce qui doit faire l'objet permanent de notre joie, c'est de savoir que nous sommes sauvés. Et mes frères, mes sœurs, si vous me le permettez, bien souvent, eh bien, nous vivons une vie chrétienne bien triste parce que nous perdons eh bien, cette réalité de vue. C'est parce que eh bien, nous sommes fondés non pas sur cette espérance glorieuse que l'apôtre qui est écrit aux Hébreux eh bien, définit comme une ancre pour notre foi, mais parce que notre vie, notre foi est ancrée sur des choses qui sont, j'allais dire, parfois plus ou moins hypothétiques. Non pas que les promesses de Dieu soient hypothétiques. Ce n'est pas ce que je dis. Mais c'est que parfois, notre joie peut être amarrée sur des choses qui ne sont pas fermes. Et ainsi, nous devenons, ou nous sommes susceptibles de devenir des tristes chrétiens. Être un chrétien triste, ce n'est pas un souci. Hein ? Mais devenir un triste chrétien, c'est quand même un peu plus gênant. Et ce n'est pas le plan de Dieu pour notre vie. Mon frère, ma sœur, si tu as soif de la joie d'en haut, si tu as soif d'une vie chrétienne épanouie, si tu as soif de sentir ton cœur vibrer à nouveau, si tu as soif de sentir eh bien, ton cœur être profondément ému, si tu veux ressentir cette joie qui n'a rien à voir avec l'euphorie du monde, mais cette joie qui est permanente, qui dure, qui vit en toi malgré les difficultés de cette vie, alors, eh bien, lève tes yeux et tu verras ton nom inscrit dans le livre de vie. Alors tu sentiras l'Esprit de Dieu qui atteste à ton cœur eh bien, que tu es effectivement enfant de Dieu. Et là est notre joie. Là est notre joie. Ça, personne ne pourra nous l'enlever. Parce que notre cœur a été scellé par l'introduction du Saint-Esprit dans notre vie. Alors, il y a deux fondements de notre joie qu'il faut éviter. Il y a deux choses, au moins, auxquelles j'ai pensé. Ensuite, vous aurez pensé à autre chose, mais qu'il faut éviter. La première, c'est qu'il faut éviter que notre joie ne repose sur les choses du monde. Alors vous me direz, ouais, je suis chrétien, c'est pas mon cas. L'apôtre Pierre, lorsqu'il écrit à la diaspora, à l'église persécutée, il leur dira la chose suivante, 1 Pierre 1:24, « Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » L'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il dit clairement ? Il dit que finalement, tout passe. Messieurs, lorsque vous offrez de superbes bouquets de fleurs à vos dames, chose que vous faites fréquemment parce que vous savez à quel point cela leur fait du bien au cœur, il y en a certains qui baissent le regard. Je suis en train d'en mettre certains mal à l'aise, soit. Nous savons très bien que ça leur fait grande joie, mais que ces fleurs, même choyées et bichonnées, ont vocation à passer. Nos vies sont périssables. Je suis désolé, mais vous avez une date limite de consommation. Navré. J'allais dire que de la même manière, ce que nous faisons a une date limite de consommation. Nos joies ont une date limite de consommation. Les effets eh bien, des actions qui nous donnent la joie ont une date limite de consommation. Il y a des choses qui sont terriblement périssables. Moi qui ai connu les choses du monde en profondeur, je sais à quel point la drogue a une date limite de consommation, à quel point la violence a une date limite de consommation, à quel point la gloire que les hommes peuvent nous donner un temps a une date limite de consommation. Toutes ces choses-là ont vocation à périr. Et toutes les joies qu'elles peuvent donner ont vocation à périr. En revanche, la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Elle demeure éternellement. Elle demeure éternellement dans ses valeurs. Et là, Jude, lorsqu'il écrira, il exhortera eh bien, les chrétiens à défendre eh bien, cette sainte doctrine une fois pour toutes. Elle a été donnée une fois pour toutes. Elle n'a pas vocation à bouger, même si notre société change. Et nous le savons, et nous le vivons. Mais elle demeure éternelle de par ses effets. Si le bouquet de fleurs donne une joie éphémère, eh bien les effets de la parole de Dieu dans une vie, eux, sont profondément éternels. Ils ont des conséquences éternelles. Parce que lorsque quelqu'un est convaincu de péché, de justice et de jugement, lorsque la foi naît, lorsque au contact de l'Évangile, eh bien cela a des conséquences qui sont éternelles. Mais je dirais que même ce que nous recevons sur cette terre, ça a vocation à être éternel. Lorsque je reçois la parole de Dieu dans mon cœur, ça a vocation à avoir des effets éternels, à avoir des conséquences éternelles. Mon frère, ma sœur, ce que tu as pu recevoir de la part de Dieu, ça a vocation à rentrer jusque dans l'éternité. Et nous devons être des hommes et des femmes qui, lorsque nous recevons une parole de Dieu, et même j'ai envie de dire, lorsque nous recevons une bénédiction de la part de Dieu, eh bien, elle a vocation à être éternelle. Je dis non lorsque, eh bien, on reçoit une bénédiction et qu'on la laisse passer. Parce que la bénédiction que Dieu nous donne est éternelle. Lorsque mon Dieu m'accorde quelque chose, je le garde dans mon cœur et je veille dessus. il n'y a pas de date limite de consommation aux bontés de Dieu. Lorsque, eh bien, mon Dieu, eh bien, m'a guéri, je crois qu'il m'a définitivement guéri. Je crois que lorsqu'il m'a délivré du tabac, de l'alcool, il m'a définitivement délivré et je reste dans cette position de foi. Lorsque j'ai connu, eh bien, une bénédiction particulière, je garde cette bénédiction, je ne la laisse pas passer, je ne la mets pas de côté. Un petit peu comme la parabole du semeur, vous savez, où la parole tombe sur le chemin, qui est l'image du cœur qui a été piétiné et qui s'est endurci. Et puis l'oiseau, et Jésus le définira lui-même comme étant le diable, vient et puis enlève la semence. Nous refusons de reculer. Lorsque Dieu nous donne quelque chose, nous refusons de reculer. Parce que sa vocation à être éternelle. Et c'est notre joie. Vous savez, moi je crois que la parole nous dit que la parole de Dieu nous dit que les paroles de Jésus ne remontent jamais à lui sans avoir fait son effet. Et que même dans un cœur qui ne semble pas réceptif, je crois de tout mon cœur que la parole de Dieu a vocation à demeurer éternelle. Et c'est pour ça que nous la semons. C'est pour ça que nous l'aimons. Ne recule pas. Arrête de reculer. Arrête de mettre les bénédictions de Dieu dans ta poche. Mais vis-les. Arrête. Toujours regarder devant ou derrière. Mais vis les bénédictions que ton Dieu t'a données. Ce qu'il t'a accordé, il te l'a donné. Rentre dedans par la foi, simplement et tranquillement. Les paroles de Dieu ont vocation à être éternelles. Quand j'étais bien hier, je peux être bien aujourd'hui. Si Dieu m'a béni hier, je peux être bien, je continue à être béni aujourd'hui. Même si mon cœur est plus ou moins en détresse, même si les circonstances de la vie sont différentes, il n'en reste pas moins que ce que j'ai reçu hier, je continue à le vivre aujourd'hui. Mon Dieu n'a pas changé. Et c'est toute la question du regard que je pose sur ce qui est éternel. Est-ce que j'y pose un regard de foi en disant « Ok, Seigneur, tu l'as fait en moi, tu l'as fait une bonne fois pour toutes, c'est terminé, c'est bouclé. » Vous pourrez, si vous voulez que je sois plus théologique, ça a été délié dans les cieux, donc ça a été délié sur la terre. Voilà. Comme ça, vous pourrez dire que je suis théologique. Et ce qui a été délié, personne ne peut le lier. C'est fait. Ne laisse pas de porte. C'est fait. Et je me dis que, si je reviens à mon sujet, notre foi ne repose pas sur des choses périssables. Et la simple... Vous savez, une simple question que j'aimerais poser. Sur quoi est amarrée ta foi? Sur quoi est amarrée ta joie? Qu'est-ce qui fait la joie de ton cœur? Fermez les yeux 5 secondes et puis répondez à cette question sincèrement avec Dieu. Ce matin, qu'est-ce qui a réjoui ton cœur? Est-ce la pensée du poulet que tu vas manger? Je suis désolé, mais il peut être brûlé. Auquel cas, ta joie sera quelque peu déçue. À quoi servirait-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? On peut retourner aux sources de la joie. On peut retourner aux sources de la joie. Et je le redis, ce n'est pas les sources de l'euphorie. Ça ne fera pas de nous des gens qui souriront jusqu'aux oreilles à longueur de temps. Ça ne nous empêchera pas d'avoir quelques larmes de temps en temps, d'avoir quelques frayeurs de temps en temps. n'empêchera pas parfois eh bien, d'en avoir quelque part un petit peu ras-le-bol. Parce que nous ne sommes pas des super chrétiens. Nous ne sommes pas de ceux qui sautent au plafond en longueur de temps. Mais nous sommes des êtres humains, mais dans lesquels le Saint-Esprit vit, dans lesquels le fruit de l'Esprit est semé. L'une des composantes du fruit de l'Esprit, c'est la joie. Simplement, c'est la joie qui est amarrée. Eh bien, non pas eh bien, la dernière PS2 ou PS3 ou PS8, non pas au dernier iPhone, non pas à ce qu'on va manger, non pas au caractère de notre mari, non pas au caractère de notre belle-mère, non pas au caractère de notre pasteur, mais qui est amarré au salut qu'il y a en Jésus-Christ et à rien d'autre. À partir de ce moment-là, personne ne peut me le voler, cet héritage. Personne ne peut me l'enlever. Et je me cache en Jésus et je suis protégé. Un bateau qui est amarré sur des choses fragiles, il risque de partir à dérive. Ce qui fait la joie de mon âme, ce n'est pas non plus les bénédictions que Dieu me donne. Bien sûr, ça y participe. Mais attendez, et si Dieu nous arrête de nous bénir, ça signifie que nous arrêterons d'être heureux ? Ce qui signifierait que Dieu est un distributeur de bénédictions, et qu'on met une pièce dedans et puis que ça sort. Ce qui signifierait que si Dieu cesse de nous bénir pour une raison ou pour une autre, on cesse d'être heureux ? Non, mais attendez. Seigneur, ce qui fait la joie de mon âme, c'est que mon nom est inscrit dans le livre de vie. C'est que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Deuxième chose sur laquelle ne doit pas être amarrée mon âme, c'est vivre. Vous savez, c'est sur un principe qui dit que vivre de grandes choses avec Jésus, c'est automatiquement vivre heureux. Vivre de grandes choses avec Jésus, ça ne signifie pas vivre la joie du salut. L'apôtre Paul, quand il écrit ce passage extraordinaire de Philippiens 4:4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous », il était loin d'être dans un contexte facile puisqu'il était en prison. Et vous savez, les disciples, pendant 3 ans, ont vécu bien des choses extraordinaires avec le maître, 3 ans et demi. Des guérisons, des choses fabuleuses, un enseignement de qualité. Pourtant, ça n'a pas empêché que l'essentiel ne soit pas acquis. À la croix, seul Jean était présent. Judas, on le rappelle, a vécu des miracles extraordinaires. Il a plutôt mal tourné, le garçon. Les 10 lépreux, tous les 10 étaient guéris. Pour autant, il n'y en a qu'un seul qui est revenu. Je crois qu'on peut vivre des choses fortes avec Jésus et finalement perdre l'essentiel de vue. Et c'est ça que j'aimerais vous rappeler ce matin. C'est que l'essentiel de notre vie chrétienne, c'est notre salut. Nous pouvons vivre des choses fortes et perdre l'essentiel pour quelle raison ? Rapidement, je n'ai pas le temps ce matin de toutes les déflorer. Mais premièrement, parce que nous ne sommes plus pauvres en esprit. Ah bon ? Il faut être simplé pour être un bon chrétien, pasteur ? Non. Être pauvre en esprit, d'après les béatitudes de Jésus, ce n'est pas du tout ça. Mais c'est être de ceux, de celles qui reconnaissent qu'ils ne savent pas. On peut perdre les bénédictions parce qu'on est blasé. Et il n'y a rien de pire quelque part qu'un chrétien qui soit blasé. Qui dit « je sais ». Mon frère, ma sœur, quand tu diras « je sais », ça voudra dire « attention, danger ». Quand tu ouvriras un passage de la Bible en disant « je le connais par cœur celui-là », attention, danger. À partir du moment où on croit savoir, ça veut dire que l'on n'a plus soif d'apprendre. C'est que quelque part le puits est bouché. Non, je pense que la bonne mentalité, c'est de dire « Seigneur, quel que soit, j'allais dire le prédicateur, quel que soit le moment, quel que soit le passage, quelles que soient les circonstances, j'ai encore soif d'apprendre. » Quand on pense avoir tout vécu avec Jésus, en réalité, il y a des problèmes. Ça signifie que l'on n'est plus dans cette capacité d'être heureux, tout simplement parce que nous ne reconnaissons plus notre faiblesse. Et dans ces cas-là, on récolte ce que l'on sème, c'est-à-dire que l'on devient réellement sec. Deuxième raison pour laquelle nous pouvons bien finalement perdre l'essentiel, c'est que, je l'ai évoqué tout à l'heure, nous sommes attachés à la bénédiction qui vient ou qui ne vient pas. Le salut, c'est une assurance. La résultante de la prière, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'exaucement, mais je dis que bien des prières parfois ne sont pas exaucées parce qu'elles viennent, c'est ce que dit l'apôtre Jacques, de notre propre convoitise, et non pas de la sagesse de Dieu et non pas de la volonté de Dieu. Puis nous savons que Dieu a des temps pour répondre. Et s'il nous laisse trop traîner, cela signifierait-il que nous serions dans la tristesse ? Troisième chose, nous pouvons perdre l'essentiel parce que nous avons une capacité de contentement limitée. Parfois, dans ma propre vie de prière, j'ai l'impression d'être un chrétien syndicaliste. Vous savez ? Que je débarque auprès du trône de la grâce avec des panneaux en disant « Bénis-moi, 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 bénis-moi !» Et puis si jamais il ne me bénit pas, ben, j'aurais peut-être l'essentiel, peut-être la tentation de me mettre en grève. Bénis-moi. Bon, Dieu est plus têtu que nous. Il doit avoir des origines bretonnes. Et ça se traduit par peu ou peu d'actions de grâce. Et je rappelle que l'action de grâce, ce n'est pas simplement par nos mots qu'elle s'exerce, mais également par nos actes. Bref, à certains moments, on peut perdre l'essentiel. Parce qu'on est amarré sur des choses qui sont fragiles. Parce que on n'a plus cette conscience de la grandeur de l'œuvre de Jésus. Et c'est le troisième point. Vivre la joie du salut, c'est finalement vivre la simplicité de la croix. Ce qui est complètement paradoxal avec cette mentalité de sans cesse eh bien, vouloir être plus compliqué. Vivre la simplicité de la croix, c'est finalement vivre cette joie que Jésus a ressentie lorsqu'il a contemplé l'œuvre de la croix qui est en train de s'accomplir. Satan qui tombe comme un éclair. C'est une image, bien sûr, de la victoire définitive. Jésus mettra les principautés, les dominations sous ses pieds. Il a paru pour détruire les œuvres de l'ennemi de nos âmes. Et lorsqu'il fait mention au serpent et au scorpion, cela fait écho au psaume 91. Lorsqu'il est écrit les choses suivantes, écoutez bien, ce psaume est extraordinaire. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, ou sur le scorpion. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoque et je lui répondrai. Psaume ô combien prophétique, mais psaume que nous pouvons également prendre pour nous. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Les animaux hostiles cités dans ce psaume ne nous parlent pas que des œuvres ténébreuses, mais les commentateurs les associent souvent à l'esprit du monde et aux tentations sociétales. Et je crois, mes frères et sœurs, que Jésus, lorsqu'il voyait l'œuvre, son œuvre s'accomplir au travers des 70, il voyait également eh bien, la délivrance pour son peuple dans les tentations qui sont les nôtres aujourd'hui. devant la ruse, devant la subtilité du péché et des choses. Jésus a déjà pourvu. Notre joie est fondée sur ce qui est accompli, non pas sur ce qui est hypothétique. La croix a scellé des choses dans le ciel. La croix a scellé une œuvre. Lorsque Jésus dit que tout est accompli, ça signifie qu'il n'y a rien à rajouter, mais que son œuvre, elle est parfaite. Et lorsque nous prions, lorsque nous concevons notre vie chrétienne, eh bien, ne la concevons pas au conditionnel, mais concevons-la à l'impératif. Parce que Jésus a tout scellé. Et Jésus contemple à ce moment-là, eh bien, par avance, ce qui va être manifesté à la croix. Et je dirais qu'il ne se réjouit pas en espérance, mais il se laisse réjouir par ce qui va être. Et lorsque je contemple le pardon de mes péchés, lorsque je contemple mon salut, lorsque je contemple que le fait que mon nom est inscrit dans le livre de vie, non, je ne le contemple pas simplement en espérance. Mais je le contemple comme quelque chose qui est. Vous saisissez ? Comme quelque chose qui est. C'est écrit, déjà dans le ciel. C'est scellé dans le cœur de Dieu. Lorsque je contemple le pardon de mes péchés, et lorsque je contemple la culpabilité qui va avec, eh bien, en tant qu'enfant de Dieu, le pardon qui m'est accordé, il n'est pas hypothétique, mais il l'est. Il est marqué dans le ciel. Il est déjà actif dans le ciel. Et c'est en cela que l'apôtre Paul dit que toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes les choses anciennes sont définitivement passées dans le ciel aux yeux de Dieu. Et toutes choses sont en train de devenir nouvelles, où ça ? Sur la terre. C'est-à-dire que dans le ciel, il y a une dimension qui est figée où les choses sont définitivement écrites. Ok ? Et sur la terre, par notre foi et notre obéissance, au travers du ministère du Saint-Esprit, il y a des choses qui s'écrivent. Et ce qui est dans le ciel s'inscrit dans notre présent aujourd'hui. C'est deux dimensions qui sont différentes, mais c'est deux dimensions qui se rejoignent. Ce n'est pas de l'hypothétique. Ce n'est pas de l'hypothétique. Lorsque je parle de guérison, dans les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Immédiatement, je rentre dans un processus de guérison. Mais je sais que quelque chose est fait. Je sais que la délivrance est là. C'est écrit. Ce n'est pas du conditionnel, mais c'est accompli. Lorsque on prie pour que nos chaînes soient brisées, c'est fait. Lorsque nous prions pour que nos caractères changent, les nôtres, hein, pas celui d'à côté. Hein. Celui d'à côté, c'est trop difficile. C'est fait. C'est écrit dans le cœur de Dieu. Reste à nous-mêmes à le prendre par la foi de tout notre cœur et à l'appliquer à nos propres vies. Et à rejoindre la dimension de ce qui est dans le ciel. Et lorsque je considère ça, parfois je suis profondément humilié pour tous les conditionnels que j'ai pu mettre. Je suis profondément humilié. Parce que je vis mon mort de présent et j'oublie de vivre la puissance qui est inscrite dans le ciel pour moi. Les promesses que mon Dieu a inscrites dans le ciel pour moi. J'oublie. Mon frère, ma sœur, tant de choses sont inscrites pour nos vies. Tant de choses. Rentrons-y simplement par la foi. Jésus contemplait déjà les choses à venir. Aujourd'hui, nous, elles sont scellées, et définitivement scellées. Il y a un héritage glorieux qui nous est réservé. Conclusion. texte d'Hébreu au chapitre 12 et au verset 1 nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Quel est le rapport, me direz-vous ? Le rapport, c'est que nous refusons de nous laisser envelopper. Ce terme-là est intéressant parce qu'il nous parle d'un ennemi quelque part qui entoure notre vie de manière subtile. Et puis ensuite, qui resserre, sans même que l'on s'en aperçoive. On a pu te mettre un manteau d'indifférence. On a pu te mettre un manteau de tristesse. Tu as pu te laisser envelopper par le manteau du péché. Et du coup, tu as complètement perdu de vue ce qui est profondément inscrit dans le ciel. Tu as pu te laisser envelopper par un manteau de rationalisme. Et tu as perdu complètement de vue ce qui devient et ce qui est spirituel. Un manteau de souffrance. Et on s'habitue à la souffrance. Comme je dis de temps en temps, elle nous tient chaud. Parfois, elle nous sert bien. La croix est debout. Et Jésus veut t'entourer d'un autre manteau. Le manteau de sa justice. Te sens cerné. À l'étroit. Enfermé. Si ta joie n'est pas ce qu'elle devrait être. Si tu as perdu ta joie. Retourne aux sources. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Bénissons le Seigneur pour les dons spirituels et nous y aspirons. Mais notre nom est inscrit dans le livre de vie. Nous bénissons Dieu pour le baptême dans le Saint-Esprit. Mais notre nom est inscrit dans le livre de vie. Nous bénissons Dieu pour l'Église, pour la communion fraternelle. Mais notre nom est inscrit dans le livre de vie. Nous bénissons Dieu pour notre famille, mais notre nom est inscrit dans le livre de vie. Nous bénissons Dieu pour notre compte en banque, mais notre nom est inscrit dans le livre de vie. Nous bénissons Dieu pour nos enfants, mais notre nom est inscrit dans le livre de vie. Vous voyez où est-ce que je veux en venir ? Et pour que ce manteau saute, que ce carcan saute. Seule solution, c'est de passer par une repentance et de virer les mauvaises priorités et de regarder à nouveau à celui qui est l'auteur de notre joie. Et on peut être chrétien depuis des années et des années et avoir perdu de vue le véritable objet de notre joie. Tu manques de fraîcheur. Peut-être, pardonnez-moi l'expression, que au moment où je parle, tu sens que la date limite de consommation de ta foi arrive à son terme. Et tu es sur le point de craquer et tu te dis, voilà, je ne trouve plus de joie dans ma foi. Je ne trouve plus de joie dans les cultes. Je ne trouve plus de joie dans la louange. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est parce que tu t'es laissé envelopper par un esprit, par une mentalité de suffisance. Si tu ne passes pas par une repentance, la date limite de consommation de ta foi passera. Mais heureusement, la grâce de Dieu est là. La croix est là. Le pardon de Jésus est là. La vie de Jésus coule encore. Reviens aux sources. Reviens aux sources. Reviens aux sources. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Te bénissons, Seigneur, et nous proclamons ton nom. Nous croyons, Seigneur, dans la puissance du nom de Jésus. Nous croyons dans l'autorité du nom de Jésus. Nous croyons, Seigneur, que des sources du cœur de Dieu coulent une joie profonde, Seigneur. Et tous ensemble, ce matin, nous voulons te dire merci pour notre salut. Merci pour le salut acquis à la croix. Merci parce que sur la croix du calvaire, Seigneur, tu as porté nos fautes. Merci parce que sur le bois de la croix, Seigneur, tu as porté notre péché. Merci parce que sur le bois de la croix, eh bien, tu as fait de nous des nouvelles créatures. Seigneur, et tu as rempli notre cœur d'une joie immense, Seigneur. Et nous te supplions, Seigneur, afin que dans chacun des cœurs, Seigneur, ici présents, je te supplie pour que la joie coule à flot, Seigneur, et que vraiment, eh bien, la joie du salut soit là. Merci de nous faire grâce. C'est là, Seigneur, ce qui est important. Merci, Seigneur. Merci de nous avoir rachetés de notre vaine manière de vivre. Merci, Seigneur mon Dieu, de nous avoir fait passer les ténèbres à ton admirable lumière. Merci, Jésus, de nous avoir aimés tels que nous étions. Et merci d'avoir inscrit des choses dans le ciel pour nous. Merci, Seigneur, pour ce qui est définitif. Seigneur, aide-nous à vivre ainsi. Dans le nom de Jésus. Amen.